tout de suite, on a évoqué les thérapies non médicamenteuses et on retrouve avec bonheur Joëlle Etcheverry, directrice. On dit Etcheverry ? Oui, oui, c'est bon, d'accord. Directrice de l'EHPAD Le Mas. Avec Alice, bien sûr, vous pouvez venir à deux. Et donc, il va nous parler de ce guide d'intervention, de guide sur les interventions non médicamenteuses.
Bonjour. Je suis accompagnée d'Alice, qui est neuropsychologue aussi en EHPAD, pas le même EHPAD que je dirige, mais dans le même groupe, et on travaille régulièrement ensemble. Et notamment, ce guide a été co-construit par un grand nombre de personnels de nos EHPAD. Et donc, on voulait vous le présenter, comme vient de le dire jusqu'à présent la personne, je ne sais plus où elle est, mais elle s'est déjà assise. Oui, voilà. L'importance des interventions non médicamenteuses dans l'accompagnement en EHPAD. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par accompagnement non médicamenteux et les approches non médicamenteuses ? Et effectivement, alors rapidement, pour revenir sur un historique et un avenir autour de ces interventions non médicamenteuses, 2003, l'ANESM, l'Agence régionale de la qualité de vie, la qualité des établissements médico-sociaux à l'époque, 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans. Moi, j'arrivais comme jeune infirmière dans le premier EHPAD où je travaillais. Donc on était encore très très loin de tout cela, de ces interventions non médicamenteuses. Les thérapeutes, il n'y en avait pas dans nos établissements. Ouais, on était contents déjà quand il y avait une infirmière. Et effectivement, mais c'est les premières briques qui arrivent. Et effectivement, ensuite, on a eu une période avec les premiers plans Alzheimer, où il y a eu l'arrivée et la création des pôles d'activité de soins adaptés, les unités d'hébergement renforcées et les équipes effectivement spécialisées Alzheimer. 2011, les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui a remplacé la NESM, donc effectivement qui pose vraiment les thérapies non médicamenteuses comme incontournables dans l'accompagnement des maladies neuroévolutives. Et effectivement, là, on est déjà sur 2024 et l'avenir, mais l'agence NPS, qui est une société savante des INM, organiserait également des congrès et est en train de pousser fortement ces interventions et l'harmonisation notamment des pratiques autour de ces interventions. En parallèle, nous, au niveau de notre groupe, il y a eu donc un travail qui a été mené en début 2021, effectivement, de se dire... faire un état des lieux, finalement, qu'est-ce qui est mis en place dans nos structures, qu'est-ce qui fonctionne, fonctionne pas et pourquoi. Vraiment faire un état des lieux et poser une définition collective, déjà, de ce qu'on allait mettre derrière une intervention non médicamenteuse. Fin 2021, on a co-construit et co-écrit avec plus de 80 thérapeutes de notre groupe l'élaboration de ce guide qui est sorti, effectivement, après une relecture en 2022, qui est sorti, je ne vois plus, mais voilà, en septembre 2022, le premier. Donc, premier guide qui sort, et on l'a diffusé très largement dans tous nos établissements, à l'ensemble du personnel, sur toute l'année 2023. Et ben, aujourd'hui, on est sur un guide V2. Alors, pourquoi on a eu besoin de faire une deuxième version ? Parce qu'effectivement, en le déployant, il y a pas mal de questions qui sont arrivées, effectivement. Ben, finalement, cette place des INM dans l'accompagnement, comment la définir, comment la mettre en place. Il y a plein de choses, finalement, qui sont médicamenteuses et qui sont à valoriser. Ça, c'était le constat aussi. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient sur le terrain. Que l'outil pédagogique était nécessaire. Donc ça, finalement, on était plutôt content de se dire que le guide répondait à un besoin, une attente, parce qu'il n'y avait pas vraiment... Il y a beaucoup d'écritures sur les interventions médicamenteuses, mais il n'y a pas véritablement de guide qui aide les équipes avec indication, contre-indication, comment je mets en place l'activité, j'ai besoin de quoi, à quoi elle sert, c'est quoi la définition de cette activité. Et avoir une vision globale, et puis finalement faire la part des choses entre ce qui est de l'INM et ce qui n'est pas de l'INM. Alice en parlera beaucoup mieux que moi juste après. Donc il y a un guide V2 qui sort là, qui est en train d'être diffusé au sein de nos établissements et qui est avant tout qui a été réfléchi dans une approche systémique du soigner, prendre soin. Alors c'est des mots un peu lourds où on a eu l'importance de remettre au cœur devant le micro. Au cœur du sujet, et ce schéma est très important pour nous, il est affiché dans nos établissements et vraiment un visuel qui nous aide dans notre quotidien, qu'on soit soignant ou non soignant. Ce qui est fondamental, c'est déjà le cœur. Ça ne sert à rien de mettre en place une intervention médicamenteuse si on n'a déjà pas réfléchi sur notre environnement. On parlait de l'EHPAD de demain. Nous, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est que l'environnement, la désiréabilité des lieux, le rendre effectivement désirable. Que le lieu de vie, en respectant effectivement la liberté, le pouvoir d'agir, redonner du pouvoir d'agir aux personnes, même aux personnes présentant une maladie neuroévolutive, de travailler, de valoriser leurs capacités restantes. C'est vrai qu'on a tendance, qu'on soit aidant professionnel ou parfois aidant familial, à s'attacher à ce que les personnes n'arrivent plus à faire. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est au quotidien et le plus gênant ou qui nous perturbe ou qui nous demande justement des actions. Mais on oublie parfois les capacités restantes. Et ça, c'est important. Travailler sur nos ambiances, qu'elles soient sensorielles, on parle de la lumière, de la couleur, les ambiances sonores. Et effectivement, qu'on soit sur des architectures adaptées, on a encore du gros travail en EHPAD sur nos architectures. Et ça, c'est nos objectifs. I have a dream, moi aussi. Et effectivement, on parlait des maisons de crawl. Pourquoi pas que les unités protégées dans les EHPAD deviennent des petites maisons de crawl, carpe diem, pour les références. Donc l'environnement, il est super important et ça sert à rien d'aller faire autre chose si déjà l'environnement, il n'est pas travaillé en équipe. Après, il y a les approches de soins, c'est toute la partie relationnelle, bien sûr, qui fait appel au savoir-être, au savoir-faire des professionnels, à la mise en place d'outils, des méthodes, de la formation, bien sûr, en apportant de l'accompagnement sur de la bien-traitance, sur de l'éthique, le questionnement du pourquoi on va faire les choses. Donc, c'est le deuxième rayon. Le troisième, ça va être toutes les activités, parce qu'effectivement, avant d'arriver à l'INM, il y a plein d'activités qui peuvent être mises en place, que ce soit de l'occupationnel, des sorties, des choses qu'on en parlait, qui aient du sens pour la personne, la remettre dans des gestes qui sont ancrés dans leur quotidien et qu'ils avaient l'habitude de faire chez eux, leur permettre, leur donner le pouvoir de pouvoir continuer à mettre la table, à débarrasser de la vaisselle, à refaire leur lit s'ils le souhaitent, à balayer. Alors, c'est plus des dames, mais il y a aussi des hommes. Mais ça, c'est important. Donc, on est sur une sphère plutôt d'activité. Et effectivement, ensuite, il y a aussi tout ce qui sont les interventions non médicamenteuses avec un objectif de soin. Voilà, ça, c'est Alice qui va vous le préciser. Mais ça, si l'environnement n'est pas propice, vous n'arriverez pas à faire une intervention médicamenteuse avec un objectif et une régularité. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ce schéma-là, il est primordial aujourd'hui dans nos réflexions.
Donc, en fait, le premier objectif de cet outil, c'est qu'il soit pédagogique et qu'il soit simple d'utilisation, que ce soit pour le personnel soignant ou pas. Vraiment, notre idée, en fait, c'est de pouvoir sensibiliser les ASH, le personnel hôtelier, la cuisine, nos serveuses, le personnel administratif, à toutes ces questions-là, parce que déjà, les idées de chacun sont bonnes à prendre. Et parce que, par exemple, je pense aux ASH qui sont au cœur de nos unités, qui ont une belle vision de notre environnement et de l'environnement du résident. Sur la question de cette désirabilité du lieu, elles sont très, très, très pertinentes. Donc, sur le chapitre 1, en fait, et sur les premières questions qu'on va se poser sur l'environnement, il y a aussi toutes les questions d'ambiance, questionner nos ambiances, qu'elles soient lumineuses, qu'elles soient sonores, qu'elles soient en lien avec l'odorat, et de créer du sens entre le moment de la journée, par exemple, et ces ambiances-là. Par exemple, on réfléchit à la possibilité d'avoir des lumières qui varient dans la journée en fonction de la luminosité à l'extérieur. D'avoir au niveau des odorats l'odeur du café et du pain grillé le matin au petit déjeuner et d'autres odeurs au fil de l'avancée de la journée. Sur les questions d'approche de soins, l'idée c'est aussi de sensibiliser les équipes à toutes ces choses-là parce que le premier vecteur de prise en charge, c'est nous. On peut avoir beaucoup de matériel dans nos établissements, on peut avoir beaucoup de locaux. Si on n'a pas le personnel pour le faire vivre et puis si on n'a pas le savoir-être et un petit peu de savoir-faire, on n'en fait malheureusement pas grand-chose. Et aussi des outils. Donc en fait, c'est un peu des outils qu'on avait, quand cet état des lieux a été fait dans les établissements, c'était les outils qui nous paraissaient un peu le minimum à avoir, surtout dans nos unités de vie protégées. Donc en fait, le guide INM, il ressemble un petit peu à ça. Donc par exemple, sur les ambiances sensorielles, on vient redéfinir ce que c'est qu'une ambiance lumineuse, une ambiance sonore, une ambiance olfactive. On essaye de donner un petit peu une orientation sans dire aux équipes « il faut absolument ça, il faut absolument ça », parce que l'idée, c'est aussi que chacun s'imprègne de l'outil et y mette ce qu'ils ont envie en fonction de la qualification de chacun, mais aussi en fonction des résidents accueillis à l'heure actuelle dans l'unité. Et pour aussi guider des petits trucs pratico-pratiques qui peuvent être faciles à mettre en place. Sur les approches, alors là, on vous a montré un peu l'idée de l'approche Montessori. C'est vraiment pas de former les gens, parce qu'il faut vraiment une formation qui dure quelques jours pour vraiment former nos personnels à ce que c'est que l'approche Montessori, mais déjà de donner une première appétence, des premiers petits trucs et astuces, si je puis dire, pour aussi pousser nos équipes et pousser nos établissements, quand elles font leur plan de formation, à aller pousser certaines approches de soins en fonction des désirs des personnels des établissements. Donc vous avez quelques petites photos de choses qui se font dans nos établissements sur ces questions-là de pouvoir d'agir, d'ambiance et ce qui est fait sur le volet de la méthode Montessori.
Petit exemple rigolo, en haut à droite, c'est sur l'établissement, si je ne me trompe pas, Vert Prairie à Salon de Provence, où effectivement c'est la boulangerie Montessori. Donc c'est de manière éphémère mais ponctuelle. Il y a une boulangerie qui est mise en place avec tenue par une résidente et qui vend effectivement des viennoiseries dans l'unité. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Sur le petit matériel qui, nous, en tout cas, alors après, c'est une liste qui nous est exhaustive et qui nous est propre à LNE Santé. Il y a sûrement d'autres choses qui existent et qui sont très bien aussi, mais nous, c'est ce qu'on considère comme le minimum incontournable à avoir dans nos unités de vie protégées. C'est tout ce qui est objets transitionnels et les objets empathiques, donc tout ce qui est poupons, petites peluches, des choses comme ça. Les objets lestés, notamment des couvertures lestées. Des chariots flash d'activité et des objets de manipulation qu'on laisse à disposition des résidents, parce que l'idée, c'est que ce n'est pas du tout enfermé dans des placards, sinon ça n'a aucun intérêt, mais justement que ça vive dans l'unité. Et par exemple, sur les poupons d'empathie, on a toujours un résident qui se l'accapare et qu'on ne retrouve jamais parce qu'il est dans le déambulateur d'une résidente ou qu'il est dans la chambre d'un monsieur ou qu'il est au bras de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les résidents puissent s'emparer de ce matériel-là. Et que si c'est eux qui le feront vivre, on a tout gagné. Et donc vraiment, dans l'idée de ce guide, en fait, c'est donner vraiment des fiches pratiques de comment on peut présenter aux résidents ces objets-là, dans quel contexte on les utilise, les apports qu'ils peuvent avoir, et puis les différents types. Par exemple, pour les objets de manipulation, il en existe plein. Pareil, des petits trucs et astuces sur comment les choisir et lesquels sont les plus adaptés.
Ouf. Attention, plus que 2 minutes, je crois.
Alors, je fonce. En gros, sur les activités, sur les INM, sur le premier guide qu'on avait sorti, on n'avait mis que de l'INM. Et du coup, ce n'était pas clair la différence entre activité et INM. Non pas que l'un est plus important que l'autre, on les met tous les deux sur les mêmes pieds d'égalité, mais ce n'est pas quand même exactement la même chose. Donc, on les a catégorisés en 3 grandes approches, les approches cognitives, les approches motrices et les approches sensorielles. Donc pour faire un exemple très pratico-pratique, là aujourd'hui on a décidé de vous présenter l'atelier cuisine. Donc en fait c'est toujours une double page sur le guide INM, avec d'un côté ce qui est l'atelier cuisine en occupationnel, en activité classique comme on le retrouve dans la plupart des EHPAD, et ce même atelier mais en termes d'INM. La grosse différence entre les deux, c'est que pour l'INM on va avoir un objectif de soin, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner les résidents, pas juste parce qu'ils ont une appétence pour la cuisine et que c'est sympa, c'est un moment convivial, pas du tout, mais parce qu'on aura un objectif clairement identifié pour chacun des résidents. Par exemple, pour Madame Dupont, ce sera de travailler de la motricité fine. Pour Monsieur X, ce sera un objectif plutôt social ou un résident très, très apathique sur lequel on va venir solliciter un lien social ou de retrouver des émotions. Pour un autre résident, ça va être de travailler de la planification motrice. Donc vraiment, on est vraiment sur un objectif de soins qu'on va poser en équipe. On va se dire, ben, on met 15 séances de cuisine thérapeutique avec ce résident et au bout des 15 séances, on va venir réévaluer notre objectif de soins. C'est-à-dire que si mon objectif était moteur, par exemple, est-ce que ben, voilà, j'ai vraiment réussi à solliciter le résident sur cette partie motrice et est-ce que je lui ai apporté une plus-value ou pas ? Voilà. Des fois, la réponse sera non, c'est que c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste peut-être l'atelier n'était pas le plus propice, le moment n'était pas le meilleur, la manière de l'apporter, peu importe. Mais vraiment, on fait la différence entre l'activité et l'INM en sachant que l'activité, dans une majeure partie des cas quand même, elle devient un jour INM. Et juste pour terminer, ça c'est un super tableau qui a été créé par les thérapeutes du coup et qui en fait guide beaucoup les équipes. Si vous voulez, alors je sais pas combien. Là en haut, on a différents objectifs de soins qui sont identifiés, donc des objectifs cognitifs, psychocomportementaux, somatiques, moteurs ou sociaux, et toutes les INM qui sont catégorisées dans le guide. Et en fait, pour chacun des objectifs, quand on pêche un petit peu et qu'on sait pas trop quelle activité aller choisir. Et ben du coup, en fait, si par exemple j'ai un objectif de langage, et ben je vais regarder sur les ateliers sur lesquels il y a une petite pastille. C'est les ateliers qui viennent solliciter ben, les fonctions de langage et pour lesquels il y a un objectif possible. Donc voilà, l'idée c'est que ça c'est pareil, c'est affiché partout dans l'établissement et que c'est à disposition de tout le monde et qu'on accompagne tout le monde. Et dans la version des aidants, on aimerait, en tout cas ça c'est pareil à I Have a Dream aussi, c'est qu'on puisse former les aidants à ça en fait.
Un point important. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant-dernière intervention. Alors, ne partez pas, hein, parce qu'après, on va boucler avec le témoignage très, très puissant d'Agathe. Donc, restez, ne loupez pas ce grand, grand moment. Alors, quelques questions, bien sûr. Une petite 5 minutes de questions. Camille est là avec le micro. N'hésitez pas, allez-y. Ah, c'est moins vif qu'en début d'après-midi, mais on a une question. Après, je vous en poserai une. Je ne sais pas où il est arrivé. Oui, madame. Au tango ? Est-ce qu'on peut s'inscrire ? Parce que moi, j'y vais tout de suite, là. Avec ses pouces d'un argentin. Non, ça ne marche pas, mais attends.
On vous entend.
C'est pas grave, on vous entend. Demandez à madame de poser votre question. Elle a une phrase.
Apparemment, le tango a des bénéfiques et il réunit plusieurs
qualités ou plusieurs effets.
Est-ce que vous avez déjà
proposé ?
Alors, moi, personnellement, le tango, en vidéo, mais pas plus, sans plus. En fait, ce qu'on n'a pas abordé aussi, c'est que pour mettre en place de l'INM, on a besoin quand même d'un personnel qui soit formé. Et donc, c'est vrai que dans nos établissements, chez vous,
moi,
par exemple...
Au Mazacote Bleu, à Martigues, nous avons l'atelier danse, thérapie et tango dans le cadre de l'accompagnement de la maladie de Parkinson, notamment, parce qu'effectivement, c'est extrêmement recommandé pour travailler la coordination et l'activité physique. Donc, on a un intervenant formé qui vient toutes les semaines animer cet atelier tango qu'on a ouvert finalement, bien évidemment, à tous les résidents de l'établissement. Il a quand même adapté ses danses, tango, gym, zumba, mais effectivement, c'est une activité aujourd'hui pour certains occupationnels, parce qu'ils aimaient danser, pour d'autres thérapeutiques et rentrant dans une INM. Donc, oui.
Non, c'était important d'avoir appelé les différences entre ces deux. Juste une question, pourquoi vous avez dit que votre rêve c'était de former les aidants pour, qu'est-ce que ça apporterait selon vous ? Parce qu'on est dans quand même une démarche quasi soignante en fait quand même.
Oui, parce qu'en fait on a aussi, en fait au même titre que nous, on est confronté aux troubles cognitifs et aux troubles comportementaux des résidents qu'on accompagne. On a les aidants aussi qui sont confrontés aux mêmes difficultés et qui, on a fréquemment des époux, des enfants qui nous disent, en fait, je ne sais pas quoi faire, quand ma mère est en détresse, quand ma maman déambule, je ne sais pas comment rentrer en communication, je ne sais pas. Et en fait, donc il y a ce plaisir de venir voir son proche, mais il y a ce sentiment d'impuissance face à la maladie. Et on se dit qu'en fait, bah, par exemple, typiquement, si sur des moments d'angoisse, bah, on formait aussi les familles à faire du snozzolène, par exemple, avec leurs proches, et ben pourquoi pas, en fait.
Un peu les transformer en soignants non médicamenteux, d'une certaine manière.
Je pense, en fait, ils sont déjà plus ou moins experts de la pathologie de l'autre, mais ils n'ont pas assez de billes, et c'est un peu ce qui a été verbalisé cet après-midi. Pas assez de billes pour réagir.
Très bien. Allez, une dernière question. Allez, je descends vers vous, parce que je crois qu'il ne marche plus, hein, c'est ça le micro ? Ah !
Alors, ce n'est pas forcément une question, mais je voudrais rebondir sur la formation. En fait, je pense que déjà, initialement, il n'y a pas assez de formation dans ce sens-là, dans les formations initiales paramédicales. Je suis infirmière, j'ai travaillé 10 ans en gériatrie, pas en EHPAD. C'est quelque chose où on n'est déjà pas à l'aise, nous, en tant qu'infirmière, d'aller déjà une activité occupationnelle et aller plus loin, faire... je pense que initialement, il faut des formations et ça donnerait du sens aussi au travail infirmier en EHPAD. Et ça pourrait éventuellement attirer aussi le recrutement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a souvent des a priori de travailler en EHPAD en tant qu'infirmière sur des pratiques. Donc ça donnerait du sens en fait à la pratique professionnelle en EHPAD. Et c'est pas assez valorisé, je pense.
Tout à fait d'accord sur la formation de base. Alors ça, c'est vrai que c'est plus à faire remonter au pouvoir public et on le fait remonter à tous les niveaux. On le fait remonter. Sachez que les professionnels des EHPAD vont dans les IFSI et les IFAS former les futurs professionnels aujourd'hui. Donc on le fait, je sais que mes collègues qui sont présentes le font. La psychologue d'établissement, une aide-soignante maîtresse de maison dans l'établissement vont sur, on forme aux snozzolènes, on forme aux INM les futurs professionnels qui... Qu'ils aillent en EHPAD ou ailleurs, en tout cas, on l'espère, pourront utiliser ça auprès des personnes.
Madame a raison, excellent levier pour l'attractivité dans ces structures qui manquent cruellement de professionnels. Merci infiniment
à
toutes les deux pour votre intervention.